premier sur l'info, le journal présenté par Cédric Valax.
Bonjour Cédric, on commence par les titres que vous développerez aujourd'hui.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La vie est plus chère en Polynésie française qu'en métropole. Ce n'est pas nouveau, mais l'écart se creuse. Il était de 26% en 2010, il est aujourd'hui de 39%. C'est ce qu'indique l'ISPF dans une étude publiée ce matin, une étude dont nous vous donnerons le détail. Autre chiffre, 700 millions de francs. C'est ce que pourrait coûter le terminal de croisière international qui serait installé sur le port de Papeete à la place de l'actuel office du tourisme. On en parlera avec le ministre de l'équipement, Albert Solia. Nous resterons dans les chiffres avec les résultats du bac qui ont été publiés hier. De bons résultats pour le premier groupe puisque 71,35% des candidats présents, toutes filières confondues, ont décroché leur diplôme du premier coup. En deuxième partie de journal, nous parlons sport avec le championnat du monde de Vaha qui seront organisés au Fénois en 2017 et 2018. On fera le point avec le comité organisateur local et nous resterons sur l'eau avec la Morea Sailing. Coup d'envoi demain.
On commence donc avec le coût de la vie en Polynésie, 39% plus cher qu'en métropole.
Oui, l'étude de l'ISPF publiée ce matin fait bondir. La vie est plus chère en Polynésie française qu'en France, ça ce n'est pas nouveau. Mais l'écart se creuse, il était de 26% en 2010, il est aujourd'hui de 39%. Des écarts de prix qui s'expliquent essentiellement par la cherté des produits alimentaires et du logement. L'analyse des résultats se focalise sur les dépenses d'un métropolitain consommant en territoire ultramarin avec ses habitudes de consommation et sur les dépenses d'un ultramarin consommant en métropole avec son mode de consommation. Selon l'indice de Fisher, qui représente davantage une consommation à mi-chemin entre les deux territoires, l'alimentation et les boissons alcoolisées présentent l'écart de prix le plus important, 48%. Pour le logement, il est de 35% et pour les autres biens et services de 62%, mais ce sont des moyennes. Pour un ménage métropolitain venant s'installer sur le territoire polynésien, s'il ne change pas ses habitudes de consommation, les prix lui apparaîtront 55% plus élevé qu'en métropole. La plus forte différence de prix concerne les boissons alcoolisées et le tabac, avec un écart de 142% entre la France et la Polynésie française. Concernant l'alimentation, l'écart est de 81%. La Polynésie connaît les écarts les plus importants de tous les territoires d'outre-mer comparés au prix de la métropole. En ce qui concerne le logement, les prix sont 48% plus chers en Polynésie qu'en France. L'ISPF fait également le point sur les communications et l'accès Internet. Pour l'Institut, le différentiel présenté entre la métropole et la Polynésie française est en partie un différentiel de rapport qualité-prix. Les offres proposées aux Fénois sont difficilement comparables à celles de métropole, car d'une part elles sont couplées et le débit est généralement beaucoup plus élevé en France. Concernant les communications, l'offre illimitée n'existe pas, par exemple à Tahiti. Pour un ménage métropolitain venant s'installer en Polynésie, les prix concernant ce poste budgétaire lui paraîtront donc, accrochez-vous, 155% plus cher.
Un autre chiffre qui fait tourner la tête, 700 millions de francs pacifiques, c'est ce que pourraient coûter les aménagements destinés à accueillir les croisiéristes.
Oui, en octobre dernier, à l'Assemblée, Édouard Fritch évoquait lors du débat d'orientation budgétaire l'importance du tourisme pour l'économie polynésienne. Dans son discours, le président du pays annonçait la création d'un ensemble d'accueil des croisiéristes à Papeete, comprenant une gare maritime adaptée, mais aussi des espaces touristiques aménagés. Une annonce qui devient réalité, puisque le port autonome vient de publier un appel à candidature pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Au cœur du projet, un terminal croisière international que nous présente le ministre de l'Équipement, Albert Solia.
Il y a donc un bâtiment qui va être construit à l'emplacement du service et du ministère du Tourisme et qui va donc recevoir les passagers. Ce terminal permettra également de gérer à la fois les touristes pour les entrées et sorties des bateaux dans des conditions de sécurité, puis de protection de la pluie, etc. Et surtout de gérer également, comme ce qui se passe dans les aéroports, les bagages, la sécurité, le contrôle, enfin tous ces éléments-là. Et il y aura à l'intérieur des aménagements pour la partie des artisans, des boutiques. Hein. Donc on a quelque chose qui va être un bâtiment destiné vraiment à l'accueil et à la gestion des touristes.
Autour du terminal, c'est toute la zone qui va être aménagée, place Vaillété comprise. L'appel à candidature parle d'ailleurs d'un espace de restauration sous forme de food truck, les fameuses roulottes. Albert Solia confirme et rassure.
Bon, il n'est pas question, hein, je veux bien rassurer tout de suite, il n'est pas question d'enlever les roulottes ou les gens qui ont des activités. Hein. On va aménager, c'est vrai, mais l'essentiel de l'activité restera en place. Par contre, il y aura par exemple, on a de gros problèmes pour gérer à la fois les taxis, les véhicules de tourisme qui viennent récupérer donc les touristes. Il va donc y avoir des zones où ils pourront rentrer, recevoir ou déposer les touristes dans des conditions normales.
Prévu également au programme une passerelle équipée d'ascenseurs. Elle devrait régler un des points noirs de la circulation à Papeete lorsqu'un paquebot est à quai, en permettant aux croisiéristes d'accéder au centre-ville sans avoir à traverser la route. Reste le coût de ces futurs aménagements, tu le disais Alexandre, pas loin de 700 millions de francs.
Les chiffres avancés, bon, ils sont évidemment à prendre avec beaucoup de précautions, puisque ça va attendre du bâtiment final et des aménagements, mais on est à quelque chose qui va se situer, je pense, entre 300 et 400 millions environ. Hein. Ensuite, il y a une passerelle qui, elle, va être également une infrastructure de qualité avec des ascenseurs. Là, il faut s'attendre à quelque chose qui va être sûrement aux environs de 200 millions. Hein. Donc ça, plus les aménagements d'hiver, on a 600 à 700 millions entre l'équipement et le port autonome d'aménagement dans la zone.
Voilà, annoncé lors de la présentation du projet, la phase d'étude de ce futur terminal de croisière international devrait se poursuivre jusqu'en octobre pour des travaux qui s'étaleront de 2017 à 2018 si le calendrier est respecté.
Nous restons dans les chiffres avec les résultats du bac qui ont été publiés hier.
Oui, si l'on en croit les résultats du premier groupe, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu leur examen du premier coup, le CRU 2016 du baccalauréat s'annonce bon en Polynésie. Toutes filières confondues, ils sont 1397 à avoir été admis sur les 1950 présents aux examens, soit un taux de réussite de 71,35%. Autre résultat encourageant, le nombre d'admis avec mention représente plus de la moitié des reçus au premier groupe, 61% en filière générale et 57,6% en filière technologique. Pour le baccalauréat général, ce sont les scientifiques qui s'en sortent le mieux avec 76,21% d'admis et 67 mentions très bien sur les 362 élèves reçus. Au final, sur l'ensemble des lycéens qui ont planché ces dernières semaines, 419 devront passer par les épreuves du second groupe programmées la semaine prochaine. Par contre, 142 élèves voient leur année perdue et devront se représenter l'année prochaine s'ils veulent décrocher leur examen.
Radio 1, premier sur l'info.
Retour au journal avec du Var et les futurs championnats du monde.
Oui, deux événements présentés hier par le comité organisateur local Tahiti Var 2018, un comité composé d'acteurs du pays, de la mairie de Pilhae et de la fédération tahitienne de Var. Événement phare de cette présentation, les premiers championnats du monde de Var marathon, dont le départ sera donné le 28 juin 2017 dans la baie de Tahoné. L'événement devrait accueillir près de 900 rameurs et rameuses de 25 pays, représentant 5 des 4 continents. Seule l'Afrique ne sera pas représentée. Et pour accueillir les sportifs, 600 millions de francs sont prévus pour réaménager le domaine à Lightning How, qui sera désormais dédié à l'accueil des grands événements sportifs et culturels locaux et internationaux. La salle sera donc rasée dans quelques mois, comme nous l'explique le président du col, Jean Chicou.
Alors sur l'infrastructure, ben des grosses infrastructures, et là c'est le pays qui me donne beaucoup de sa poche, puisque tout le site d'Aoletinilo va être repensé et retravaillé. La salle va être démolie d'ici la fin du mois de septembre, avec la mise en place d'un parc paysager, qui sera dévolu surtout aux activités nautiques. Donc on retrouvera à l'intérieur beaucoup d'espaces de sportifs, peut-être on retrouvera aussi à l'intérieur des stockages de pirogues, on va trouver peut-être aussi une école de formation, mais dédiée vraiment à la pratique des activités nautiques, puisqu'on va retrouver la plage, puisqu'actuellement on n'en a pas d'accès à la plage. Et c'est aussi surtout pour la population.
Et dans l'optique d'attirer les participants étrangers, les organisateurs ont retenu la période de fin juin, autant pour le championnat du monde de Va'a marathon que celui de vitesse. L'objectif est de réaliser un 3-en-1, car en plus de ces deux rendez-vous mondiaux, les rameurs pourront participer au Tahito et aux courses du Heiwai Tahiti. Le comité organisateur local propose donc dès maintenant aux internationaux un programme hôtelier comprenant frais de logement et de restauration, coaching et déplacement.
Autre info, les Va'a vont être modernisés pour ces championnats.
Oui, les organisateurs ont également annoncé le résultat de l'appel d'offres lancé pour la production de nouveaux V1 et V6. Et ce sont les prototypes réalisés par la société Feiwa qui ont été retenus. Ils serviront à tous les équipages engagés pour ces championnats du monde 2017 et 2018. Représentant l'entreprise Vatea Bunton se dit très heureux d'avoir été choisi pour ce travail de titan.
Nous sommes très heureux, hein. C'est une validation, donc, comme je disais, de tous nos efforts, du travail fourni pendant des années par tout le monde, que ce soit nous à la tête de l'entreprise ou notre équipe de constructeurs, nos rameurs, tous les gens qui ont cru en nous. C'est la consécration donc de Feiwa, non seulement au niveau du V1, mais aussi du V6 maintenant, avec Philippe Hérodo à Papeete, et de leur équipe également à eux. Donc nous sommes tous très très heureux. Ça représente quand même 60 V1 et 60 V6, donc c'est pas négligeable. Ça va nous donner du travail pendant plusieurs mois. Donc on envisage de commencer la construction en septembre et avec un rythme soutenu. La livraison de tous ces VAR, donc de 120 VAR, doit se faire le 1er juin 2017. C'est un travail de petit temps.
Voilà, et les interviews ont été réalisées par Moana Charles. Et à noter que dès 2019, le Te Aito devrait intégrer le futur V1 World Tour, une étape polynésienne qui, on l'espère, aura autant de succès que celles organisées en surf par la WSL.
Après la rame, la voile avec la Moorea Sailing, dont le coup d'envoi sera donné demain.
Oui, le rendez-vous est devenu important pour les amateurs de voile, car certains prévoient maintenant, dans leur traversée du Pacifique, d'être à Tahiti à la fin du mois de juin pour participer à l'événement. Au programme de ces 3 jours, des rencontres aujourd'hui avec les traditionnelles festivités d'accueil, ça sera ce soir. La traversée Tahiti Moorea demain avec un départ à 10h en dehors de la passe de Papeete. Et enfin une journée de sport traditionnel polynésien où les touristes seront invités à participer. Une 60aine de voiliers sont attendus de plusieurs pays pour ces 3 jours de festivités qui répondent à 3 objectifs. C'est ce que nous précise et résume Stéphanie Betts, l'organisatrice de l'événement avec sa société Archipelagos, également organisatrice de la Tahiti Pearl Regatta. Écoutez, les au micro de Lucie Rabrio.
En fait, il y a plusieurs objectifs à cet événement. Le premier objectif, d'abord, c'est d'accueillir les voiliers qui ont escale en Polynésie. Et donc, en ayant 50 à 60 bateaux sur cet événement, ben, on accueille quasiment 10% des voiliers en escale. Les accueillir, les informer sur la destination, sur les infrastructures qu'ils vont trouver sur Tahiti, sur Moorea et aux îles Sous-le-Vent. Ensuite, le deuxième objectif, c'est effectivement de positionner Tahiti comme la porte d'entrée, on va dire, du Pacifique Sud insulaire, puisque ces voiliers en transpacifique, après notre destination, vont aller naviguer jusqu'au Tonga, au Cook, au Fidji, en Nouvelle-Zélande. Et donc, on a des sociétés impliquées dans le tourisme nautique dans ces destinations qui sont intéressées de venir profiter de ce moment où on rassemble tous ces bateaux pour communiquer et les informer sur leurs prochaines escales. Et donc, ça positionne ainsi Tahiti comme vraiment la porte d'entrée du Pacifique. Le troisième objectif, c'est de sensibiliser la population, puisque ces bateaux, pendant la journée de samedi, invitent la population à faire la traversée Tahiti-Moorea à bord de leur bateau. Et ça nous permet de montrer un peu la vie de ces gens, comment c'est dans leur bateau. Le temps d'une journée, ils vont s'imprégner de ces voyageurs, ces touristes un peu atypiques.
Retrouvez l'info en continu
Radio 1.
Sur radio1.pf.